On va bientôt commencer. Alors vous avez les plans, les textes, tout ce qu'il vous faut. Et regardez bien avec moi si vous avez tout ça. Et donc nous commençons. Alors c'est notre neuvième séance consacrée donc à la lecture de l'Esprit des lois de Montesquieu. Et puisque cette séance donc, est filmée, encore une fois, sur YouTube, j'indique qu'elle est la suite de celle du 23 mars 2025, qui avait pour titre « Montesquieu et la liberté politique », et qu'elle s'inscrit dans le cadre des activités de Philopop, Association populaire de philosophie du Havre. Alors, nous avons principalement consacré la séance du 23 mars à une lecture du livre 11, et nous avons à peine abordé le livre 12. Alors, il s'agira aujourd'hui de lire ce livre 12 de manière plus approfondie, en lui ajoutant quelques chapitres du livre 6. Les livres 6 et 12 ayant pour objet commun la question de la justice pénale et de l'administration des peines. Alors, le problème sera à nouveau de voir comment garantir la liberté politique, non plus cette fois en protégeant le citoyen de l'abus de pouvoir, mais en le protégeant de l'arbitraire qui peut résulter de l'institution judiciaire et des lois pénales. Alors, pour clarifier les choses, il me paraît d'abord utile de faire quelques rappels pour montrer par quel cheminement Montesquieu est conduit à poser le problème que nous allons aborder. Comme en témoignent les titres des livres 11 et 12, la liberté politique est leur fil directeur. Ainsi, le livre 11 traite des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la Constitution, c'est le titre, hein, et le livre 12, des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec le citoyen. Il est donc question d'aborder la liberté politique sous deux angles différents. Sous l'angle de ce que Montesquieu appelle le droit politique, ce que nous appelons nous le droit constitutionnel, c'est-à-dire au fond les lois fondamentales qui forment la structure d'un gouvernement et qui agencent ses pouvoirs. Ça, c'est l'objet du livre 11 que nous avons lu. Puis, sous l'angle du droit civil, c'est-à-dire des lois qui organisent les rapports entre les citoyens au sein de l'État, et c'est précisément l'objet du livre 12. Alors, comme l'a montré le livre 11, il ne suffit pas d'instaurer un gouvernement modéré, ce que nous appelons nous un État de droit, pour protéger le citoyen de l'arbitraire du pouvoir. Il faut encore s'assurer que dans ce gouvernement, il ne puisse pas y avoir d'abus de pouvoir. Et comme on l'a vu, il y a abus de pouvoir quand, d'une part, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont dans les mêmes mains, et quand, d'autre part, le pouvoir judiciaire, qui est chargé de punir les crimes et de juger des différends entre les particuliers, n'est pas séparé des deux autres. Lorsque le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont concentrés dans les mêmes mains, je rappelle la citation, vous l'avez lu, on peut craindre que le même monarque ou le même Sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Chapitre 6 du livre 11. Les lois sont tyranniques en ce qu'elles oppriment, en ce qu'elles ne protègent pas, car elles ne sont alors que les décrets arbitraires d'un homme ou d'une assemblée qui concentrent les pouvoirs, le pouvoir de faire les lois et le pouvoir de les exécuter. Et quand le pouvoir judiciaire n'est pas séparé du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, eh bien on peut craindre encore que les lois édictées soient des lois discriminatoires, conçu seulement en vue d'être appliqué à des cas particuliers, ou que les décisions des juges soient destinées à punir des hommes jugés coupables par avance. Alors vous mesurez ainsi ce que veut dire être libre pour un citoyen, comme nous l'avons vu la dernière fois. Ce n'est pas être soumis au décret arbitraire d'un pouvoir, ce n'est pas être soumis à l'arbitraire d'un homme ou d'une assemblée. Un homme qui, par exemple, parce qu'il a du pouvoir, est tenté d'en abuser si aucun autre pouvoir ne vient l'arrêter. Et on se rappelle à ce sujet que Montesquieu ne définit pas la liberté politique comme l'exercice de sa volonté, mais comme cette tranquillité d'esprit, c'est son expression, dont bénéficie le citoyen lorsqu'il est protégé de l'arbitraire de la volonté des autres, à commencer par l'arbitraire de la volonté de ceux qui détiennent du pouvoir. Alors ici, il faut faire attention au titre du livre 11, qui montre que la liberté n'est pas une donnée naturelle qui préexiste à la société, et qui montre qu'elle est formée dans son rapport avec la Constitution. Et j'insiste sur le verbe « former ». Autrement dit, elle résulte de la Constitution, elle en est le produit, car celle-ci, en divisant le pouvoir et en arrêtant le pouvoir par le pouvoir, permet aux citoyens de ne pas craindre un autre citoyen, à commencer par les gouvernants. Mais comme l'indique Montesquieu au début du livre 12, ce n'est pas suffisant. Et vous lirez avec moi le premier texte, sur la première page, chapitre 1, livre 12, le début. Vous lisez ainsi, ce n'est pas assez d'avoir traité de la liberté politique dans son rapport avec la Constitution, il faut la faire voir dans le rapport qu'elle a avec le citoyen. Et il poursuit, j'ai dit que dans le premier cas, elle est formée par une certaine distribution des trois pouvoirs, mais dans le second, il faut la considérer sous une autre idée. Elle consiste dans la sûreté ou dans l'opinion que l'on a de sa sûreté. Fin de citation, j'arrête là ma lecture. Donc il ne suffit pas d'aborder la liberté politique sous l'angle des institutions politiques, car elle est surtout un sentiment. Le sentiment d'être en sûreté, ou comme l'écrit Montesquieu, elle est l'opinion que l'on a de sa sûreté. Ce sentiment n'est pas seulement le produit des institutions politiques, il dépend surtout des mœurs et des coutumes qui existent dans une société. Et là encore, je cite Montesquieu dans le même chapitre, plus loin, ligne 16 à peu près, oui c'est ça. J'ai souligné le passage, mais dans le rapport avec le citoyen, des mœurs, des manières, des exemples reçus peuvent la faire naître et de certaines lois civiles la favoriser, comme nous allons voir dans ce livre-ci. Il s'agit donc d'un sentiment tributaire des mœurs d'une société que les lois civiles qui règlent les rapports entre les citoyens, que les lois civiles peuvent favoriser ou au contraire contrarier. Et parmi ces lois civiles, il sera surtout question des lois pénales, comme on va le voir en étudiant le livre 12. Lois pénales que Montesquieu nomme les lois criminelles, c'était le nom qu'elles avaient à l'époque. Alors, dans la mesure où ce sentiment ne reflète pas nécessairement la réalité des institutions politiques, mais est relativement autonome par rapport à elles, eh bien Montesquieu va jusqu'à dissocier deux aspects de la liberté politique. D'un côté, la liberté politique au sens strict, qui est le produit de la Constitution, et qu'on peut appeler la liberté de constitution. Et puis de l'autre, la liberté du citoyen, c'est-à-dire l'opinion qu'il a de sa sûreté, qui n'a pas un sens politique, car elle relève principalement des mœurs, des usages de la société, Et cette liberté, les penseurs libéraux au XIXe siècle l'appelleront la liberté civile. Ainsi, selon cette distinction, il est tout à fait concevable que je sois libre politiquement sans l'être civilement et réciproquement. Il se peut que la Constitution me protège de l'abus de pouvoir sans que pour autant je me sente libre. Et c'est le cas quand je vis dans une société où l'institution judiciaire, même indépendante, juge les citoyens en référence à des lois injustes et me condamne au bûcher pour avoir blasphémé. Ou si je prends un exemple un peu plus moderne, si elle me condamne à une peine infamante en raison d'une orientation sexuelle jugée scandaleuse. Et vous savez qu'il a fallu attendre longtemps pour que l'homosexualité ne soit plus considérée comme un délit dans notre propre pays. Et réciproquement, il se peut que des lois pénales soient justes et favorisent la liberté civile, sans que pour autant le citoyen soit protégé par une constitution contre l'abus de pouvoir. Alors en pratique, on peut remarquer qu'une distinction aussi nette entre la liberté de constitution et la liberté civile est assez peu probable. Il y a peu de chances que là où le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont concentrés dans les mêmes mains, il y a peu de chances que l'institution judiciaire soit indépendante et que les lois pénales soient autrement que tyranniques. Car celui qui concentre ainsi le pouvoir et dispose des moyens, les pouvoirs et qui dispose ainsi des moyens d'abuser du pouvoir, eh bien, il est probable que cet homme s'efforcera toujours d'imposer une législation pénale injuste et oppressive, afin précisément de renforcer son pouvoir. Mais s'il est peu probable qu'on puisse dissocier en pratique les deux dimensions de la liberté, il importe de les distinguer pour clarifier le problème qui va suivre et l'énoncer en toute rigueur. Ainsi, voilà comment on peut le formuler. S'il ne suffit pas de faire cesser l'arbitraire qui résulte de l'abus de pouvoir pour protéger la liberté du citoyen, s'il faut encore faire cesser l'arbitraire qui résulte des procédures et des lois pénales, comment éviter cet arbitraire? Comment faire pour que ces procédures, ces lois pénales soient justes et favorisent la liberté du citoyen? Comment protéger vraiment la sûreté du citoyen? Voilà le problème. Et pour Montesquieu, le problème de l'arbitraire des lois pénales est plus important encore que celui de l'abus de pouvoir. Contrairement à la lecture que l'on fait ordinairement de son œuvre, qui privilégie la lecture du livre 11. Puisque, je cite Montesquieu dans le chapitre 2 de la liberté du citoyen, regardez le deuxième paragraphe, cette sûreté n'est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C'est donc de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté du citoyen. Donc, vous voyez, ce passage est très important. Alors, deux remarques tout de même. Notez bien les adverbes « jamais plus attaqué », « principalement », qui soulignent au fond que c'est là un aspect encore plus important de la question de la liberté politique. Et deuxième remarque, évidemment, celle que je faisais tout à l'heure, les lois pénales sont appelées par Montesquieu les lois criminelles, c'est la même chose. Donc, je résume la situation, si vous voulez. Comment se sentir en sûreté Si on peut être accusé impunément de n'importe quel crime, sans aucune preuve, si on est à la merci de la diffamation, si on peut être arrêté sans être entendu, sans savoir de quoi on est accusé, et encore s'il n'y a aucune procédure pour vérifier le bien fondé de l'accusation. Si la question des lois criminelles est aussi importante, c'est comme on l'a déjà dit, parce que ces lois sont parmi les lois civiles celles qui ont, avec la sûreté des citoyens, le rapport le plus sensible. Elles mettent en jeu leur honneur, leur fortune, leur vie et leur liberté, comme l'écrit Montesquieu dans le livre 6. Or, ces lois sont arbitraires quand, je cite Montesquieu, la peine descend du caprice du législateur. C'est-à-dire quand la loi est seulement l'expression de sa volonté, quel que soit d'ailleurs ce législateur, qu'il soit un homme, une assemblée, ou qu'il soit le peuple assemblé. Et ici, il faut lire avec attention le premier paragraphe du chapitre 4 du livre 12. Je lis. C'est le triomphe de la liberté lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particulière du crime. Tout l'arbitraire cesse. La peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose. Et ce n'est point l'homme qui fait violence à l'homme. Est-ce qu'on peut allumer, si c'est possible ? Est-ce qu'on peut allumer ? Pardon. Merci. Alors, ce texte est très important, car il va permettre de comprendre à quelles conditions les lois criminelles sont justes et favorisent la liberté du citoyen. Qu'est-ce qui fait que les lois criminelles sont des lois dignes de ce nom? Non pas le fait qu'elles sont simplement décidées, instituées par le législateur, de véritables lois, et ne se réduisent pas au commandement d'une volonté qui impose son arbitraire à une autre volonté. Si c'est le cas, on n'a affaire qu'à un rapport de violence. Comme dit Montesquieu, c'est l'homme qui fait violence à l'homme. Donc les lois criminelles ne sont vraiment des lois que lorsqu'elles établissent un rapport nécessaire entre chaque peine et la nature particulière du crime auquel elles se rapportent. C'est-à-dire que lorsque la peine est dérivée de la nature particulière du crime. Cela suppose que la nature particulière du crime soit d'abord clairement définie et qu'il y ait ensuite un rapport de proportionnalité entre la peine et la gravité du crime. Ainsi, les lois criminelles ne sont vraiment des lois que lorsqu'elles sont établies à partir de la seule considération de la nature de la chose à laquelle elle s'applique. Et comme on peut le voir, cette définition des lois criminelles, eh bien, ne fait pas exception à la définition générale des lois qui est énoncée au tout début de l'Esprit des lois, premier chapitre, livre 1. Je vous la rappelle, je vous l'ai photocopiée, elle se trouve page 1, en haut. Dans la signification la plus étendue, les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Alors, que montre cette définition ? Eh bien, que les lois, quel que soit leur domaine, physique, moral, juridique, les lois sont des rapports nécessaires. qui, à ce titre, sont pleinement intelligibles, puisque les lois ont toutes une raison d'être, que l'on peut comprendre, que l'on peut connaître. Ainsi, les lois criminelles sont des lois en ce qu'elles établissent un rapport nécessaire entre le crime et la peine. Les peines sont dérivées de la nature des crimes. Et voyez que cette conception de la loi qui est fondée sur la nature des choses interdit par conséquent de réduire les lois criminelles à la seule déclaration de la volonté du législateur. Et quand bien même la Constitution serait libre et éviterait l'abus de pouvoir, il ne suffit pas que les lois criminelles soient établies par un Parlement légitime, qui légifère, et non pas par un despote qui entraîne tout par ses caprices. Il ne suffit pas que les lois criminelles soient établies par un Parlement pour qu'elles soient véritablement des lois. Ça ne suffit pas. Et si on se souvient bien de la lecture aussi de ce premier chapitre du livre 1, rappelez-vous, les lois positives, c'est-à-dire les lois instituées par des législateurs, et les lois criminelles sont des lois positives. Eh bien, les lois positives ne sont justes que si elles mettent en œuvre ce que Montesquieu appelle des rapports d'équité. Vous vous souvenez de ce point? Ces rapports d'équité, je rappelle, sont des règles de justice que l'homme n'invente pas, car il les découvre dans son intelligence, pas plus d'ailleurs qu'il n'invente l'idée de cercle, qu'il découvre également dans son intelligence. Et ici, il vaut la peine de relire ce que disait Montesquieu dans le premier livre sur ces fameux rapports d'équité. Première page, à gauche, en haut, regardez bien, je lis. Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que se qu'ordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle, tous les rayons n'étaient pas égaux. Il faut donc avouer des rapports d'équité antérieurs à la loi positive qui les établit. Autrement dit, celui qui vient vous raconter que les lois criminelles sont justes parce que le législateur les a instituées, parce que le législateur en a décidé, eh bien, dit quelque chose d'aussi absurde que celui qui soutiendrait que celui qui trace un cercle au tableau a inventé l'idée de cercle. Ça revient au même. Les lois criminelles ne sont pas justes du fait d'être instituées, mais elles sont justes seulement dans la mesure où elles mettent en œuvre un rapport d'équité, une règle de justice qui préexiste à leur institution et qui se trouve dans l'intelligence humaine. Et précisément, ces lois criminelles dont nous parlons, eh bien, elles vont mettre en œuvre le quatrième rapport d'équité qui est cité par Montesquieu dans le chapitre 1er du livre 1, que je vous ai souligné. Regardez bien la suite du texte, la fin de cet extrait. Un être intelligent qui a fait du mal à un être intelligent mérite de recevoir le même mal. Voilà le rapport d'équité dont il est question. Je le reprends. Un être intelligent qui a fait du mal à un être intelligent mérite de recevoir le même mal. Évidemment, cela exigera une explication. Ainsi, en tout cas, selon ce rapport d'équité, il est juste que la peine soit proportionnée au crime. C'est-à-dire que le mal de la peine soit équivalent au mal du crime. Et qu'elle soit d'autant plus sévère que le crime est grave. Et comme on verra, Montesquieu distingue et hiérarchise quatre classes de crimes, des moins graves aux plus graves, dans le chapitre 4, afin de déterminer pour chacun des crimes la peine qui lui est proportionnée. Dès lors, vous comprenez que le problème essentiel pour Montesquieu, c'est celui du fondement des règles d'exercice de la justice pénale. Et par là, il se démarque des philosophes du contrat social, dont je vous ai déjà souvent parlé. Philosophes du contrat social, comme avant lui Thomas Hobbes, grand philosophe anglais qui a écrit le Léviathan en 1651, et comme après lui Jean-Jacques Rousseau, qui écrira le contrat social en 1762. On peut les appeler philosophes du contrat social, hein, de manière générique, parce que pour eux, au fond, le problème essentiel, vous allez le voir, c'est celui du fondement du droit de punir. Au fond, le problème pour eux, c'est le suivant. Qu'est-ce qui autorise le souverain ? Le souverain, c'est l'autorité politique qui commande et qui décide des lois. Qu'est-ce qui autorise le souverain à punir ? Étant entendu que cette autorité est instituée et fondée par un pacte social. C'est-à-dire que les hommes se sont engagés, hein, par un pacte social à s'en remettre à son autorité. Voilà le problème posé par ces philosophes. Quelle que soit par ailleurs la conception différente qu'ils se font de ce pacte social et de la nature du souverain. Or, vous allez voir, ce n'est pas de cette manière que Montesquieu aborde la justice pénale. Contrairement à ces philosophes, pour lesquels la finalité des lois pénales se rapporte à la défense du souverain, contrairement à ces philosophes, Montesquieu rapporte la finalité des peines à la liberté du citoyen. Et c'est ce que nous allons bien comprendre. Les lois pénales, lois criminelles, visent à favoriser la liberté du citoyen. C'est le verbe qu'il a déjà employé. Comme l'indique donc le chapitre, d'ailleurs, le titre du chapitre 4 du livre 12. Je lis le titre du chapitre 4 du livre 12, regardez bien, que la liberté est favorisée par la nature des peines et leur proportion. Alors, vous voyez que, en mettant l'accent sur le citoyen dont il faut assurer la protection, et non plus sur le souverain, celui qui commande et qui légifère, eh bien Montesquieu va ouvrir une perspective nouvelle qui lui permet d'examiner la justice pénale comme jamais on l'avait fait auparavant. Et avant d'aborder les lois criminelles, ce qu'il appelle la nature des peines et leurs proportions dans le chapitre 4, il examine d'abord, au chapitre 2 et 3, la procédure pénale qui conduit à une accusation. Alors j'ai un peu abordé cette question lors de la séance précédente. Je ne reviendrai pas sur ce que je vous en ai dit, mais je soulignerai quelques points importants que je n'ai pas abordés. Rappelons-nous qu'il faut, comme l'écrit Montesquieu, des règles sûres dans les jugements criminels. Des règles sûres qui permettent d'éviter le châtiment d'un innocent, qui garantissent, comme on dit aujourd'hui, la présomption d'innocence. Et dans le chapitre 2, eh bien Montesquieu montre qu'on peut lire l'histoire du droit pénal comme celle d'un lent perfectionnement auxquels plusieurs peuples ont contribué, les Grecs anciens, les Romains, puis les Francs, et les uns et les autres ont permis d'améliorer les procédures d'enquête. Ainsi, ce n'est que très lentement et très progressivement dans l'histoire qu'on vit apparaître des lois exigeant qu'on entende l'accusé, qu'on sanctionne le faux témoignage, ou encore qu'on fasse appel à deux témoins au moins. Il a fallu un certain temps pour que tout cela se mette en place. En tout état de cause, un homme ne peut se sentir en sûreté s'il vit dans une société où on peut être accusé à tort d'un crime. D'où l'importance de cette formule que je vous avais citée, mais que je reprends au chapitre 2, je l'ai souligné, « Quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus. » Alors, dans un état despotique, et vous savez que Montesquieu prend souvent l'exemple de l'état turc, hein, de son époque, dans un état despotique où on ne fait pas grand cas de l'honneur, de la vie et de la liberté des hommes, on ne s'embarrasse d'aucune procédure rigoureuse, on n'a aucun souci de la vérité et on juge de manière expéditive. Et comme le montre également Montesquieu, d'ailleurs cette fois-ci dans le livre 6, il serait dangereux, dit-il, il serait dangereux que l'on y eût des passions de plaideur. Plaider la cause d'un homme que l'on croit innocent, sans faire l'avocat, c'est en effet prendre le risque d'être menacé et d'être assassiné dans un tel régime. Dans un état modéré, à l'inverse, c'est-à-dire dans un état où on a normalement le souci de protéger la liberté des citoyens, l'homme qui est accusé d'un crime, même le plus grave, n'est pas d'emblée traité comme un coupable. Il n'est pas d'emblée traité comme un individu déchu de son statut de citoyen. Il garde ce statut jusqu'à ce qu'il soit jugé et reconnu coupable et que sa peine soit prononcée. Et sur ce point, le propos de Montesquieu est très différent de celui que tiendra Rousseau dans son Contrat social. Et pour bien comprendre l'analyse de Montesquieu, il vaut la peine de les confronter. Brièvement, je vous rassure. Pour Rousseau, je vous ai photocopié un petit extrait du Contrat social. On le lira tout à l'heure. Pour Rousseau, un assassin est par son crime un citoyen qui sort de la citoyenneté et se constitue en ennemi de l'État. Son crime est comme une déclaration de guerre contre le souverain. Et le souverain, pour Rousseau, c'est le peuple assemblé. Dès lors, le souverain a légitimement le droit de se défendre contre lui en lui donnant la mort. Alors, ce n'est pas le souverain, le peuple assemblé qui la lui donnera, c'est le gouvernement, l'exécutif qui agira en son nom. Et je cite ici un extrait du chapitre 5 du livre 2 du Contrat social qui est très clair et que je vous ai photocopié, page 2, en bas à droite. D'ailleurs, tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie. Il cesse d'en être membre en violant ses lois. Et même, il lui fait la guerre. Alors la conservation de l'État est incompatible avec la sienne. Il faut qu'un des deux périsse. Et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme citoyen que comme ennemi. Les procédures, le jugement sont les preuves et la déclaration qu'il a rompu le traité social et par conséquent qu'il n'est plus membre de l'État. Or, comme il est reconnu tel, tout au moins par son séjour, il doit en être retranché par l'exil comme infracteur du pacte ou par la mort comme ennemi public. Car un tel ennemi n'est pas une personne morale, c'est un homme et c'est alors que le droit de guerre est de tuer le vaincu. Ainsi, pour Rousseau, vous voyez, la peine de mort, c'est un acte de guerre qui répond à la déclaration de guerre que constitue le crime. On est donc dans une logique de guerre où la conservation de l'État implique la destruction de l'ennemi qui le menace. Ou c'est toi ou c'est moi. Tel n'est pas le propos de Montesquieu. La peine de mort n'est pas pour lui un acte de guerre du souverain contre le criminel, mais comme il le dit à la fin du chapitre 4, page 2, vous verrez, vers la fin, la peine de mort est comme le remède de la société malade. Hein, ça se trouve, donc, page 2, en bas, à gauche. Vous voyez, j'ai souligné même le passage, je crois. La peine de mort est comme le remède de la société malade, ligne 86. Ainsi, la peine de mort a une vertu prophylactique. Elle rétablit la santé d'une société qui est affectée par l'un de ses membres. Mais selon cette métaphore, le criminel condamné à mort n'est pas extérieur à la société. Ce n'est pas un ennemi. Il en est un membre, dont elle doit se séparer pour sa sauvegarde. Mais en aucun cas, on ne sort du registre du droit. Et pour mieux éclairer le statut du criminel condamné à mort, Montesquieu le compare à celui de l'esclave dans le livre 15, qui est justement consacré à la question de l'esclavage. Et là, je vous ai encore photocopié ce passage. Il se trouve juste avant l'extrait de Rousseau, livre 15, chapitre 2. Je vous lis ce court extrait. Ce qui fait que la mort d'un criminel est une chose licite, c'est que la loi qui le punit a été faite en sa faveur. Un meurtrier, par exemple, a joui de la loi qui le condamne. Elle lui a conservé la vie à tous les instants. Il ne peut donc pas réclamer contre elle. J'arrête là ma lecture. Vous voyez que le criminel, qui est condamné à mort, ne l'est pas comme un ennemi. Il est condamné à mort en raison de la loi qu'il a jusqu'ici protégée. S'il a vécu jusqu'ici en sécurité, c'est grâce à la protection de la loi. Et en portant atteinte à la sûreté d'un autre citoyen par son crime, eh bien, il s'est mis en position de sa propre initiative d'être privé de la sûreté qui lui était assurée par la loi. Vous voyez ? Loin donc d'être un acte de guerre qui exclut le criminel de la société, la peine de mort le fait au contraire entrer dans une logique de réciprocité juridique, qui met en œuvre le quatrième rapport d'équité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que regardez bien encore le même passage, là où vous avez le terme de remède, hein, ligne 84-86. Voyez ce que dit ici Montesquieu. Un citoyen mérite la mort lorsqu'il a violé la sûreté au point qu'il a ôté la vie ou qu'il a entrepris de l'ôter, et ensuite cette peine de mort est comme le remède de la société malade. Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Oh, je vous vois tout de suite venir. Qu'est-ce que ça change ? Qu'on fasse de la peine de mort un acte de guerre ou une peine qui relève du droit ? Franchement, on ne voit pas trop la différence. Alors, c'est vrai que Montesquieu est partisan de la peine de mort, car pour lui, elle est utile à la société. Il n'y a pas grand monde au XVIIIe siècle qui envisage qu'il puisse en être autrement, hein, qu'on puisse punir autrement que par la peine de mort, dans certains cas. Le premier à condamner la peine de mort, à demander son abrogation, c'est l'Italien Cesare Beccaria, qui publie en 1764 un traité des délits et des peines. Mais, comme je vais essayer de vous le montrer, à bien des égards, le raisonnement que développe Montesquieu ouvre la voie à Beccaria, qu'il a lu attentivement, qui est un héritier de Montesquieu et qui est aussi un héritier de Rousseau. Il a lu les deux attentivement. En plaçant en effet la peine de mort sur le terrain de l'utilité sociale, Montesquieu ouvre une approche qui conduira Beccaria à conclure qu'un citoyen qui devient criminel ne peut jamais être une menace pour l'état de droit. Ou comme dit Beccaria, sous le règne paisible de la légalité. Ainsi, Beccaria conclura non seulement que la peine de mort est inutile, mais en plus qu'elle n'est absolument pas dissuasive. Et pire, qu'elle est nuisible par l'exemple de la cruauté qu'elle donne aux hommes. Et j'ajouterai qu'en se plaçant sur le terrain de l'utilité sociale, Montesquieu ne fiche pas les choses. Rien n'exclut, selon son raisonnement, qu'une société ne soit pas amenée un jour à abroger la peine de mort, s'il lui apparaît que sa suppression est préférable, pour sa bonne santé. Parce que pour Montesquieu, le législateur ne légifère pas dans l'absolu, mais toujours en rapport avec un certain état des mœurs qui existe dans une société donnée. Et ces mœurs peuvent changer. La peine de mort qui était autrefois plébiscitée, elle peut devenir insupportable à la sensibilité des hommes. Alors cela, si on l'abroge, cela n'empêchera pas de punir les crimes contre la sûreté toujours plus que les autres, bien sûr, mais on les punira autrement. Donc vous voyez, Montesquieu, d'une certaine façon, ouvre la voie à une réflexion qui rend possible l'abrogation de la peine de mort. Quoi qu'il en soit, le but des peines, et cela inclut pour Montesquieu la peine de mort, le but des peines n'est pas de faire souffrir, et de cela aussi se souviendra Beccaria. En tant que la peine est un mal appliqué au coupable qui répond au mal qu'il a commis par son crime, elle ne vise pas une souffrance, mais la privation d'un avantage social. Et ça, c'est très intéressant. Alors, quand on lit Montesquieu, surtout la fin du chapitre 4, on pourrait croire qu'en utilisant le terme de supplice, par lequel il désigne la peine capitale, eh bien, il y voit le moyen d'infliger des souffrances particulièrement cruelles aux condamnés. Il n'en est rien. Il n'en est rien parce que Montesquieu reprend effectivement le terme, c'est le terme en usage, mais pour en subvertir le sens. Et comme il l'écrit toujours dans ce passage, lignes 79 à 81, le supplice, je cite, hein, est une espèce de talion qui fait que la société refuse la sûreté à un citoyen qui en a privé ou qui a voulu en priver un autre. Vous avez repéré ce passage. Une espèce de talion, écrit-il. Une espèce de talion, ça ne signifie pas la loi du talion. Il y a une nuance importante. Il s'agit, là encore, de retourner au criminel le mal qu'il a commis, de le priver de l'avantage qu'il a voulu ôter à celui qu'il a tué ou voulu tuer. Et l'espèce de talion ne désigne donc rien d'autre que la perte de cet avantage qu'il a fait perdre lui-même à sa victime. Il ne s'agit donc pas d'infliger au coupable des souffrances équivalentes à celles qu'il a infligées à sa victime, en prenant en considération la manière plus ou moins cruelle dont il l'a assassinée. Et c'est d'ailleurs pourquoi Montesquieu ne parle pas de la loi du talion, mais d'une espèce de talion. En tout cas, l'usage que fait Montesquieu du terme de supplice est très éloigné de la signification qui lui est donnée à son époque sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, qu'est-ce qu'on entend par le supplice ? on entend une pratique qui consiste à infliger publiquement à un criminel toute une série de souffrances extrêmes avant de le faire mourir, pour laver l'affront qu'il est censé avoir commis par son crime contre la majesté du roi. Et pour en avoir une idée, il faut lire le compte-rendu officiel de l'exécution de Damiens, le 2 mai 1757, condamné pour régicide, que Michel Foucault fait paraître au début de son livre « Surveiller et punir » et dont on avait parlé il y a 2 ans. Alors, je résume la description, commence par briser les os avec une barre de fer de ce pauvre homme. Ensuite, on écartèle le corps du supplicié en faisant tirer ses membres par des chevaux. Et une fois le corps démembré, pris avec de grandes souffrances, eh bien, on jette les membres dans un bûcher. Alors, voyez, vous avez affaire à toute une violence ritualisée, méthodique, qui est destinée à manifester sur le corps du supplicié la force et la majesté du souverain qui a été outragé. Vous voyez, c'est comme ça que le supplice est envisagé. Vous voyez bien que Montesquieu s'écarte considérablement de cette conception du supplice. Alors, après avoir montré l'importance de la procédure pénale et précisé le statut du criminel, il est nécessaire d'établir une juste qualification des crimes. Étant entendu, bien sûr, que l'arbitraire de leur qualification risque d'entraîner une répression arbitraire. Alors, il y a danger d'arbitraire quand l'accusation de crime peut viser n'importe quelle action. En la matière, le comble de l'arbitraire est atteint par le Romain Sylla, qui, au 1er siècle avant notre ère, c'était un homme politique, hein, à Rome, qualifiait une infinité d'actions du nom de meurtre pour trouver partout des meurtriers et se débarrasser ainsi de ses opposants. C'est ce que montre Montesquieu au chapitre 15 du livre 6. La qualification est arbitraire lorsqu'elle désigne aussi comme crime n'importe quelle action indifférente. J'entends par là une action qui ne met pas en danger la société. De quel type d'action indifférente s'agit-il ? Du port d'un vêtement, ou d'une manière de manger, etc. Le législateur qui fait des lois pour réprimer le port d'un vêtement fait preuve de ce que Montesquieu appelle au livre 19 une tyrannie d'opinion. Et il donne l'exemple de Pierre Ier de Russie, qui prétend faire interdire par la loi le port de la barbe, et je cite encore, les longues robes de ceux qui entraient dans les villes, parce qu'ils trouvent que ce sont là des usages d'un peuple arriéré, qu'ils voudraient en quelque sorte occidentaliser. Le verbe n'est pas de Pierre Ier, hein, mais on devine l'idée, si vous voulez. Il voudrait que les Russes soient pleinement des Européens et pas des Orientaux, si vous voulez. Hein, voilà son souci. Or, il est toujours dangereux de contraindre les usages par les lois. Si on veut les changer, il est préférable de procéder par des exemples et de réserver les sanctions pénales aux actions qui seules mettent vraiment en cause la tranquillité et la sûreté des citoyens. La qualification est arbitraire encore lorsqu'elle porte sur des crimes dont le contenu est tellement vague qu'ils autorisent n'importe quel abus de pouvoir. Ainsi, les accusations de crimes de lèse-majesté, auxquelles Montesquieu consacre plusieurs chapitres dans son livre 12. Une question vraiment qui l'obsède. Les accusations de crimes de lèse-majesté, c'est-à-dire de manquement de respect à l'égard du souverain, ou d'hérésie, ou encore de magie, eh bien, ce sont là des accusations qui servent de prétexte au pouvoir pour infliger les peines les plus radicales. Et voyez ce que dit Montesquieu du crime de lèse-majesté au chapitre 7 du livre 12. Page 2 à droite. Chapitre 7 du crime de lèse-majesté. Les lois de la Chine décide que quiconque manque de respect à l'empereur doit être puni de mort. Comme elles ne définissent pas ce que c'est que ce manquement de respect, tout peut fournir un prétexte pour ôter la vie à qui l'on veut et exterminer la famille que l'on veut. Et je vais à la conclusion. C'est assez que le crime de lèse-majesté soit vague pour que le gouvernement dégénère en despotisme. Alors, Montesquieu parle de l'empereur de Chine. C'est commode, il est très loin. Mais on sait qu'il brûle d'envie d'évoquer les lettres de cachet par lesquelles le monarque absolu français fait enfermer au cachot, jusqu'à nouvel ordre, ceux qui le gênent ou qui s'opposent à lui, au prétexte d'un crime de lèse-majesté. Mais ça démange, hein, mais la prudence retient sa plume. Quand il parle de l'Orient, c'est souvent pour parler indirectement de la France. Hein. Enfin, comme il le précise encore, pour échapper à l'arbitraire, la qualification de crime doit porter seulement sur des actions observables et ne peut concerner en conséquence des intentions ou des pensées. C'est ce qu'écrit Montesquieu au chapitre 11, je le cite, « Les lois ne se chargent de punir que les actions extérieures. » Alors, à la nécessité d'une juste qualification des crimes s'ajoute celle d'une juste classification et d'une juste hiérarchisation qui permettent de leur appliquer des peines graduées en fonction de leur gravité. Et c'est ainsi qu'au chapitre 4, chapitre essentiel hein, du livre 12, Montesquieu distingue quatre classes de crimes qui vont des moins graves aux plus graves. Vous avez d'abord les crimes qui choquent la religion, ceux qui choquent les mœurs, ceux qui choquent la tranquillité des citoyens, et enfin, les crimes contre la sûreté des citoyens, qui sont les plus graves. Alors, pourquoi, me direz-vous, pourquoi classer les crimes afin de les identifier ? Pourquoi ne pas tout simplement les appréhender dans leur singularité et ne pas en juger au cas par cas? Eh bien, parce que procéder de cette manière, cela reviendrait à les appréhender en fonction de l'effet que leur événement produit immédiatement sur l'opinion. Et la peine consisterait alors en une riposte passionnelle à cet événement qui suscite toujours plus ou moins d'effroi. La peine risquerait alors de n'être qu'une réaction de vengeance, souvent démesurée à la violence qui a été commise par le criminel. Et comme le montre Montesquieu au chapitre 12 du livre 6, une loi criminelle faite dans l'urgence pour réagir à un crime et punir durement le criminel, eh bien, une telle loi est là surtout pour impressionner les esprits. Et ce n'est pas une loi qui dérive de la nature particulière du crime. C'est une loi qui est surtout chargée d'exprimer la dureté du législateur. Alors, vous pouvez ici prendre la page 3 et lire avec moi la fin du chapitre 12 du livre 6, oui, c'est ça. Regardez bien le dernier paragraphe, là, celui que j'ai photocopié, parce qu'il y a encore une suite après. Hein. Souvent, un législateur, c'est ligne 42, hein. Souvent, un législateur qui veut corriger un mal ne songe qu'à cette correction. Ses yeux sont ouverts sur cet objet et fermés sur les inconvénients. Lorsque le mal est une fois corrigé, on ne voit plus que la dureté du législateur. Mais il reste un vice dans l'état que cette dureté a produit. Les esprits sont corrompus, ils se sont accoutumés au despotisme. En voulant à tout prix corriger, un crime par une loi qui est faite dans l'urgence et qui est destinée à frapper le criminel, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait le législateur? Il a coutume au despotisme, loin de cultiver l'esprit de justice. Il a coutume au despotisme. Alors à chaque crime impressionnant, on fera une loi. Et puis encore une autre loi. Et on ne cesse ainsi de légiférer, au coup par coup. Alors, il est ici assez remarquable que la hiérarchie des crimes et des peines que Montesquieu présente au chapitre 4 soit en rupture avec l'ordonnance criminelle royale de 1670 qui sera en vigueur jusqu'à la Révolution française. Et Montesquieu s'en démarque sur deux points importants. Premier point, il articule une hiérarchie des peines à une hiérarchie des crimes, alors que l'ordonnance hiérarchise seulement des peines. Ainsi, par exemple, selon l'ordonnance, le juge n'applique pas une peine prévue par une loi pour sanctionner telle classe de crime, mais il exerce la puissance que le roi lui a déléguée. La puissance de juger, ainsi, n'est pas séparé de la puissance législative. Le juge est dans la position d'un législateur qui apprécie arbitrairement au cas par cas. Classer et hiérarchiser les crimes, c'est au contraire faire prévaloir la loi contre l'appréciation des juges. Dès lors, la gravité des crimes ne se mesure plus à partir de ce que décrète la puissance du souverain, mais elle se mesure à partir de la sûreté des citoyens, qui devient l'étalon à partir duquel se mesurent désormais tous les crimes. Deuxième point, Montesquieu renverse la hiérarchie admise dans l'ordonnance qui accorde une importance majeure aux crimes contre la religion. Dans l'Ancien Régime, le monarque est le garant, de manière indissociable, et de l'unité politique et de l'unité religieuse de son royaume. Ainsi, les tribunaux royaux imposent les peines les plus sévères à ceux qui commettent le crime de blasphème ou celui d'hérésie. Or, que fait Montesquieu dans ce chapitre 4 ? Non seulement il considère les crimes contre la religion comme les crimes les moins graves, mais il les soustrait à la législation de l'État. Il les dépénalise. Et ici, Montesquieu fait preuve d'une audace qui lui vaudra d'être violemment critiqué par les autorités théologiques et religieuses de son temps et qui aboutira à la mise à l'index de son ouvrage. Alors, voyons les choses de plus près. Je vais mettre un peu plus de lumière parce qu'on ne voit vraiment pas. Hein. Alors, voyons les choses de plus près. Excusez-moi pour cet intermède. D'abord, que veut dire exactement Montesquieu par les crimes qui choquent la religion ? Alors, il faut ici entendre par cette dénomination les crimes qui intéressent et attaquent la religion en tant que telle, que l'on appelle, que Montesquieu appelle les sacrilèges simples dans son texte. Les sacrilèges simples. Comme par exemple la profanation d'une hostie ou un blasphème. C'est-à-dire une offense faite à Dieu et à ses saints. Et que mérite un tel crime? Quelle peine? Eh bien, une peine seulement ecclésiastique. Je lis Montesquieu, hein. Elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la religion. Vous voyez, la peine, c'est toujours la perte d'un avantage. Hein. Eh bien, ici, elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la religion. C'est-à-dire que le criminel doit être exclu de la communauté des fidèles. Pour l'essentiel, au fond, sa peine est une peine d'excommunication. Alors, il ne faut pas confondre ces crimes qui attaquent la religion en tant que telle avec ceux qui en troublent l'exercice, avec ceux qui troublent l'exercice du culte, qui n'appartiennent pas, quant à eux, à la classe des crimes contre la religion. Car les crimes qui portent atteinte à l'exercice du culte sont soit des crimes qui troublent la tranquillité de l'État, crimes de la troisième catégorie, en termes de gravité, soit des crimes qui troublent sa sûreté. J'explique, je vais prendre des exemples si vous voulez. Perturber une procession religieuse, c'est un crime contre la tranquillité des citoyens. On dit aujourd'hui trouble à l'ordre public. Les croyants d'une religion ont le droit de faire tranquillement ce que la loi leur permet, c'est-à-dire d'exercer leur culte. En tout cas, en France, jusqu'à la Révolution, il n'y avait qu'un seul culte qui était autorisé. Rappelons-le tout de même. En 1685, révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Incendier une église, j'ajoute pour les temps modernes, une synagogue, une mosquée, quelque temple que ce soit, assassiner un prêtre ou le croyant d'une religion dans son lieu de culte, ce ne sont pas là des crimes contre la religion, ce sont des crimes contre la sûreté des citoyens. Et ce sont les crimes les plus graves. Mais le plus intéressant dans ce chapitre, en ce chapitre 4, c'est de lire les raisons pour lesquelles Montesquieu exclut que les crimes contre la religion soient de la compétence de l'État. C'est de comprendre pourquoi il les dépénalise. Et là, vous lisez avec moi ce passage très intéressant et très important qui se trouve donc page 2, chapitre 4, ligne 25 à 35. Ligne 25 à 35. C'est en haut à gauche. Dans les choses qui troublent la tranquillité ou la sûreté de l'État, les actions cachées sont du ressort de la justice humaine. Mais dans celles qui blessent la divinité, là où il n'y a point d'action publique, il n'y a point de matière de crime. Tout s'y passe entre l'homme et Dieu, qui sait la mesure et le temps de ses vengeances. Que si, confondant les choses, le magistrat recherche aussi le sacrilège caché, il porte une inquisition sur ce genre d'action où elle n'est point nécessaire. Il détruit la liberté des citoyens. Il détruit la liberté des citoyens en armant contre eux le zèle des consciences timides et celui des consciences hardies. Fin de citation. Alors, petit commentaire. Que des enquêtes soient menées pour découvrir des actions qui sont des crimes contre la tranquillité ou la sûreté de l'État, c'est du ressort de la justice humaine. Mais il n'est pas de son ressort de mener une enquête, d'envisager une inquisition, ça veut dire la même chose, pour découvrir des actions qui ne regardent pas la société des hommes, mais sont une affaire entre l'homme et Dieu. Ainsi, les actions qui blessent la divinité, comme le blasphème, eh bien, elles sont hors de la compétence des tribunaux humains. Comme dit Montesquieu, il n'y a point de matière de crime. Ça ne regarde pas l'État, ça ne regarde pas les tribunaux humains. Ils ne sont pas compétents pour en juger. Mais en mettant la justice et la force publique au service de ce type d'enquête, le magistrat qui procède ainsi pratique une confusion des genres. Non seulement il a tort de se déclarer compétent, mais ce genre d'inquisition qui porte, je le répète, sur des actions qui blessent la divinité, ce genre d'inquisition n'a plus de règles ni de bornes. Car il ne s'agit plus d'un crime proportionné à la nature humaine, mais d'une injure faite à Dieu qu'il se met en tête de venger. La conséquence est alors que l'accusé, qui est livré aux ailes de ce magistrat, est d'emblée présumé coupable. Il ne s'agit pour le magistrat que de lui arracher des aveux. Et ainsi, l'accusé ne dispose plus d'aucune protection pour se défendre. Une telle pratique inquisitoriale détruit inévitablement la liberté des citoyens. Alors, vous voyez que Montesquieu ne dénonce pas seulement le fanatisme des tribunaux d'inquisition, il en démontre le fonctionnement. Les inquisiteurs prétendent venger Dieu pour les offenses qu'il a reçues. Ils prétendent ainsi parler au nom de Dieu. Ils prétendent savoir ce qui se passe entre l'homme et Dieu. Or, si Dieu est offensé, lui seul le sait. Et c'est à lui seul de se venger, car lui seul sait comment le faire et par quelle peine. Je reprends ce court passage de Montesquieu. Tout s'y passe entre l'homme et Dieu qui sait la mesure et le temps de ses vengeances. Et dans le paragraphe suivant, Montesquieu ajoute cette phrase très importante. Le mal est venu de cette idée qu'il faut venger la divinité. Mais il faut faire honorer la divinité et ne la venger jamais. Et cette formule vaudra à Montesquieu une très sévère critique des théologiens de la Sorbonne. Ah, je peux vous le dire. Alors, de quel mal parle ici Montesquieu ? Du fanatisme. Du fanatisme, précisément. Qui est la prétention de venger Dieu. Et qui conduit à infliger aux hommes les pires supplices. Puisque, je lis la suite, « En effet, poursuit-il, si l'on se conduisait par cette dernière idée, quelle serait la fin des supplices ? Si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se régleront sur son infinité et non pas sur les faiblesses, sur les ignorances, sur les caprices de la nature humaine. » Vous voyez que l'idée qu'il faut venger Dieu aboutit à la conséquence que puisqu'il faut régler les peines sur l'infinité de Dieu, eh bien, il faut infliger des peines infinies pour venger l'être infini. Et voilà pourquoi. Voilà pourquoi les supplices pratiqués pour venger Dieu sont d'une extrême cruauté. Alors, quelques mots pour finir sur l'administration des peines. Parce que c'est un aspect aussi du problème. Comment quantifier ces peines ? De quelle manière les envisager ? Est-ce qu'il faut qu'elles soient douces ou qu'elles soient sévères ? Eh bien, c'est le problème qui est abordé par Montesquieu dans son livre 6. La nécessité de proportionner les peines aux crimes ne relève pas seulement d'un principe de justice. Elle vise aussi à limiter au maximum la criminalité. L'utilité sociale des peines, la question de leur efficacité dissuasive, eh bien, c'est une préoccupation constante chez Montesquieu. Alors, il s'agit bien sûr surtout pour lui d'endiguer la grande criminalité qui relève des crimes de la quatrième classe, les crimes contre la sûreté. Et je lis Montesquieu, alors je ne sais pas photocopier ce passage, ça se trouve au chapitre 16 du livre 6. Je lis ce passage. Il est essentiel que les peines aient de l'harmonie entre elles, parce qu'il est essentiel que l'on évite plutôt un grand crime qu'un moindre, ce qui attaque plus la société que ce qui la choque moins. Je relis peut-être l'ensemble. Il est essentiel que les peines aient de l'harmonie entre elles, parce qu'il est essentiel que l'on évite plutôt un grand crime qu'un moindre, ce qui attaque plus la société que ce qui la choque moins. Dans cet esprit, il s'agira donc moins de punir que de prévenir, d'éviter les grands crimes, surtout. Et de ce point de vue, une juste proportion entre les crimes et les peines peut avoir une finalité éducative en signalant à l'avance aux hommes à quelle peine ils s'exposent en commettant tel ou tel crime. Appliquer le même niveau de peine à un voleur et à un assassin revient à ne pas détourner les hommes de commettre des assassinats. Et si ça peut être plus efficace de voler en assassinant, on n'hésitera pas à assassiner. Donc pour que les peines aient vraiment une efficacité dissuasive, il faut surtout deux choses. D'une part, il faut d'abord qu'elles soient inévitables. Pour ceux qui ont commis un crime, l'impunité est la pire des choses. L'impunité, dit Montesquieu, chapitre 12, livre 6, est la cause principale de tous les relâchements. Première chose. Deuxième chose, il faut que les peines soient proportionnées au crime, de telle sorte que le délinquant potentiel soit incité à ne pas connaître des délits ou des crimes, en évaluant les risques qu'il encourt, en considérant que ça n'en vaut pas la peine. Expression qui vient à point nommé. Donc le délinquant potentiel doit en quelque sorte se demander quels sont les avantages que je risque de perdre en commettant un délit ou un crime. Vous voyez, on va se fier à sa capacité de raisonner et d'envisager son intérêt en mettant en place, voyez, ce dispositif. Quant à la question de savoir s'il faut des peines douces ou sévères, Montesquieu montre d'abord que cela dépend du type de gouvernement dans lequel on se trouve. Et comme on l'a vu, un gouvernement despotique n'a pas de marge de manœuvre. Il est contraint de faire un usage maximal et constant de son principe, c'est-à-dire la crainte. Il est contraint de se faire craindre en permanence. Et c'est pourquoi les peines y sont sévères. Ce n'est pas le cas des gouvernements modérés, où les peines sont plus douces et plus rares, car les hommes sont mus par d'autres principes, comme l'honneur dans les monarchies, ou comme la vertu dans les républiques, principes qui les incitent à obéir d'eux-mêmes aux lois sans qu'il soit nécessaire de les réprimer, ou sans qu'il soit nécessaire de beaucoup les réprimer. Mais de manière générale, on peut observer que les peines sévères n'enrayent pas la criminalité. contrairement à ce qu'on croit. Au contraire, des peines trop violentes, trop fréquentes, endurcissent la sensibilité des hommes et leur imagination s'y accoutume. Dans un gouvernement despotique, comme les hommes n'espèrent rien, n'espèrent plus rien, ils n'ont rien à gagner, ils ne craignent pas finalement de se livrer aux pires exactions. La seule chose qu'ils craignent, c'est la mort, c'est tout. Mais ils n'attendent rien à la vie. Donc quand on se laisse aller à des peines sévères, trop fréquentes, même dans un gouvernement modéré, eh bien, dans ce cas-là, le législateur est tenté par une fuite en avant. Recourir à des peines encore plus sévères, qui à leur tour finissent par ne plus avoir d'effet. C'est-à-dire que le législateur entre dans une surenchère répressive qui rend les peines de moins en moins efficaces. Et donc, ce que montre Montesquieu dans son fameux livre 6 sur les peines, eh bien, c'est que l'efficacité dissuasive des peines ne consiste pas dans un recours démesuré à la violence. Et comme il le dit, regardez bien, page 3, c'est le chapitre 6, livre 6. Livre 6, chapitre 12. Chapitre 12. Regardez le début du texte. Voyez ce qu'écrit Montesquieu. L'expérience a fait remarquer que dans les pays où les peines sont douces, l'esprit du citoyen en est frappé, comme il l'est ailleurs par les grandes. Et de cette expérience, de cette observation, Montesquieu va tirer une leçon. Il va montrer que l'efficacité des peines repose sur un usage modéré, un usage économique des ressources de la sensibilité humaine. D'où cette règle de modération qui est énoncée toujours dans ce chapitre 12 du livre 6, par laquelle je vais terminer la séance, parce qu'elle me semble illustrer de façon exemplaire la pensée de Montesquieu. Je la lis avec vous, ligne 26-31. Regardez bien, ligne 26-31, chapitre 12, livre 6. « Il ne faut point mener les hommes par des voies extrêmes. On doit être ménagé des moyens que la nature nous donne pour les conduire. » Et on pourra peut-être réfléchir dans la discussion sur un ou deux exemples que donne à ce sujet Montesquieu. Je vous remercie de votre écoute. Et je suis à vous pour la discussion. Oui ?
Je fais un petit pas de côté. Quand le dogme chrétien prétend et continue à prétendre que le supplice de Jésus sur la croix a une valeur, qu'il rachète les péchés des hommes, il me semble que c'est directement en lien avec la conception que le supplice du criminel a une valeur en ce sens qu'il rachèterait son crime en quelque sorte. Donc c'est une conception du passé.
Bah, c'est-à-dire que Montesquieu n'envisage pas du tout la peine comme ayant une vertu expiatoire. Il s'agit de faire expier une faute. Il n'y a pas cette conception moralisatrice de la peine. Bah, il faut que le criminel paye. Mais en fait, si vous regardez bien le raisonnement de Montesquieu, il fait tout pour que la peine apparaisse le moins possible une souffrance. Il y a une conception purement économique de la pénalité. Voilà, vous avez perdu l'avantage que vous aviez. Si vous êtes libre, si vous êtes en sûreté, c'est parce que la société vous le permet. C'est parce que la société vous protège. par les lois. Il n'y a pas de liberté sans loi, n'oubliez pas. La liberté seule, ça n'existe pas. Ça, Montesquieu insiste sur ce point. La liberté, c'est un fait de société. Elle n'existe pas avant la société. Donc, si vous êtes libre et vous vous sentez en sûreté, c'est bien parce que vous bénéficiez d'une société qui vous protège et que vous vous sentez à l'abri de toute menace. Et si vous en prenez à la sûreté d'un autre homme, eh bien, écoutez, la société, effectivement, elle devra prendre des mesures pour se protéger. C'est essentiellement ça, la fonction de la peine. Elle a surtout pour but de protéger la société. Pas de faire expier le coupable, pas pour le faire souffrir, il ne s'agit pas de ça.
Les théologiens ont peut-être senti que justement ça mettait presque en cause le dogme chrétien.
Alors, il y a deux choses concernant les théologiens. D'abord, ils n'admettent pas ce discours de Montesquieu qui consiste à dire que l'État n'a plus de compétences pour sanctionner les crimes contre la religion. C'est-à-dire que, effectivement, pour les croyants de l'époque, pour les catholiques de l'époque, effectivement, l'Église doit être protégée par l'État. L'État a la mission, en quelque sorte, de protéger l'Église. Et l'État doit intervenir pour sanctionner sévèrement ceux qui commettent le péché de blasphème ou d'hérésie. Et je vous ai photocopié derrière le plan deux extraits d'ordonnances de Louis XIV et de Louis XV, où ils montrent que, effectivement, le rôle de l'État, c'est de protéger l'Église, et de veiller à ce que effectivement de tels crimes soient vraiment punis. Ça c'est clair. Alors ça, effectivement, c'est assez choquant de dire que l'État n'a plus à s'en mêler. C'est quelque chose de fort de café, si vous voulez. Alors, n'allons pas dire que Montesquieu est un philosophe laïque, ce serait se méprendre, même si ça va dans ce sens, même si effectivement il y a l'amorce d'une séparation de l'Église et de l'État, c'est vrai, dans son propos. Mais Montesquieu n'est pas pour autant un penseur de la tolérance civile, ni même, bien sûr, de la laïcité. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour lui, la question de la tolérance, c'est une question qui s'envisage du point de vue de l'autorité, du gouvernant. C'est-à-dire que le gouvernant va tolérer au sens ancien du terme. Il va admettre qu'on puisse éventuellement pratiquer un culte qui n'est pas le culte dominant dans une société. Bon, si ça permet de préserver la paix civile, pourquoi pas? Pourquoi pas, vous voyez? Mais c'est en ce sens-là qu'il envisage la tolérance. Elle n'est pas envisagée au sens moderne comme le droit des individus de pratiquer le culte de leur choix. Non. Vous voyez? Ça, c'est pas du tout comme ça qu'il l'envisage. Donc il est, disons, assez traditionnel sur le terrain de la question de la tolérance. Mais au fond, son souci, c'est au fond d'essayer de dépassionner les choses, de dépénaliser au maximum finalement cette question. Et de faire en sorte que les offenses contre le sacré, bon, ma foi, on ne s'en mêle pas. Oui ?
Oui, justement, à ce propos-là, lorsqu'il y a des offenses contre le sacré, je pense par exemple aux caricatures de Charles Blanc, l'argument était non pas que c'était une attaque contre Dieu, mais une offense faite aux croyants.
Ah oui.
En ce sens-là, c'était une blessure faite aux croyants.
Oui.
Et là, ça rentrait plutôt dans les attaques à la Trinité. Est-ce que c'est un argument qui est...
Alors non, c'est pas un argument que retiendrait Montesquieu, parce que les atteintes à la tranquillité, à la sûreté des citoyens, c'est, je sais pas, les entraves à l'exercice du culte. Alors vous empêchez quelqu'un d'exercer son culte. Voilà, vous, je sais pas, vous, ça c'est une contrainte que vous exercez contre lui. Par contre, évidemment, si vous voulez, la question que vous posez, elle est un peu anachronique. Parce qu'on n'envisage pas, à l'époque, franchement, des personnes s'exprimer pour dire le mal qu'ils pensent, par exemple, de la religion catholique. Vous avez intérêt à vous taire, hein, dans ces cas-là, à l'époque, hein, vous avez bien compris. Mais Montesquieu, on sent bien, est un esprit libre. Hein, il n'est pas, il a vraiment de fortes réserves à l'égard de l'Église dominante. Hein, bon.
Les insultes faites à Dieu, regarde Dieu, et puis
voilà.
Il est assez grand pour se défendre.
Voilà.
C'est ce que disait notre cas, d'ailleurs. Mais est-ce que l'argument, effectivement, d'une atteinte, non pas à Dieu, mais aux croyants, une blessure faite aux croyants, est un argument qui est
alors... C'est-à-dire que si, je vais aller me pousser dans des retranchements, si... dans ces caricatures, il n'y a pas une mise en cause du sacré de Dieu, mais, disons, des caricatures, des peintures qui peuvent avoir l'air effectivement racistes, ça peut se poser comme question. Hein, une certaine façon de dépeindre les croyants qui peut apparaître comme une forme d'agression. Bon, la question peut se poser. Hein, on a bien vu que des questions s'étaient posées à propos d'un visuel. Vous voyez, ici, pour les caricatures, c'est pareil. Hein, on peut penser qu'il y a des manières de représenter des croyants qui, alors, à ce moment-là, d'ailleurs, n'ont plus tellement à voir avec la religion, mais beaucoup plus avec une forme, au fond, de logique ségrégative, enfin de discours raciste, si on peut dire. Vous voyez, bon, ça, voilà ce qu'on pourrait dire, hein, si vous voulez. Mais ce n'est plus de l'atteinte au sacré à ce moment-là, spécialement, parce qu'on s'en prend aux croyants, ce n'est pas s'en prendre à leur religion. C'est autre chose. Même si, bien sûr, c'est au titre de croyants de cette religion-là qui sont spécialement visés. Donc la question est plus compliquée qu'il n'y paraît. Vous voyez, de ce point de vue-là. Ouais. Bon, mais, encore une fois, je ne pense pas que ce débat pouvait avoir lieu à l'époque de Montesquieu. Vous voyez. Alors, il a... je sais pas, vous avez un exemple. Donne un exemple. Après le passage que je vous ai lu... il faudrait déjà que je retrouve mon texte, parce qu'il a dû disparaître dans mes papiers. C'est bon, je l'ai. Page 2. Vous voyez, par exemple, un historien de Provence. Regardez bien. C'est ligne 41. Non, 43, pardon. 43. Chapitre 4, livre 12, hein, encore une fois. Un historien de Provence, rapporte un fait qui nous peint très bien ce que peut produire sur des esprits faibles cette idée de venger la divinité. Donc les fanatiques sont des esprits faibles. Hein. Bon. Un juif accusé d'avoir blasphémé contre la Sainte Vierge fut condamné à être écorché. Alors l'exemple est intéressant. Un juif est accusé de blasphème. Il est accusé d'avoir blasphémé contre la Sainte Vierge. Or un juif ne croit pas à la sainteté de la Sainte Vierge. Il y a une confusion. Vous voyez, confusion de blasphème n'a de sens que pour un catholique, un chrétien, pour qui, effectivement, la Sainte Vierge est sainte, mais pas pour l'adepte d'une autre religion. Première chose. Ensuite, regardez. Des chevaliers masqués, le couteau à la main, montèrent sur l'échafaud et en chassèrent l'exécuteur pour venger eux-mêmes l'honneur de la Sainte Vierge. Et puis il arrête. Je ne veux point prévenir les réflexions du lecteur. Ça, c'est tout à fait du Montesquieu. Parfois, il ne va pas jusqu'au bout. Mais à vous de tirer les conclusions que vous voulez. Alors, là encore, il y a tout de même une sacrée confusion. Les chevaliers masqués veulent eux-mêmes se faire justice, venger eux-mêmes Dieu. Qu'il y ait un bourreau qui soit chargé de condamner, de tuer, de mettre à mort le juif et de l'écorcher, ça ne leur suffit pas. Ils voudraient... Le bourreau, normalement, il est désigné par la puissance publique. Eh bien non, eux, ils voudraient que ce soit eux-mêmes qui vengent la Sainte Vierge. Donc, au fond, pour un fanatique, il n'y a plus de loi qui compte. Il n'y a plus de... qu'il y ait... la justice humaine n'a même plus reconnu. Les tribunaux humains, même quand ils exécutent pourtant une peine contre un blasphémateur, eh bien non, ils n'ont pas de valeur. On va faire nous-mêmes le travail. Vous voyez ? Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, le fanatisme aboutit à dissoudre toutes les lois, finalement, à confondre tout. Voilà ce que montre, je pense, effectivement, ici, le texte. Donc, le fanatique, il prétend venger Dieu. Il assassine toujours pour... parce qu'il est investi par la cause absolue. Voilà, ça c'est clair. Question ?
On a l'impression qu'il y a un lien mécanique entre la nature du crime et la peine encourue. Est-ce que Montesquieu imaginait des circonstances aggravantes ou atténuantes qui faisaient qu'un même crime aurait pu recevoir des peines différentes ?
Alors, ça c'est une bonne question, parce que mais un lien mécanique... Non, parce que c'est tout de même... Enfin, disons que la loi établit une proportionnalité. Il faut éviter l'arbitraire qui se produisait, d'ailleurs, avec l'Ancien Régime, où il y avait certes une hiérarchie des peines, mais le juge faisait la loi, en quelque sorte. Hein. Il pouvait y avoir des peines extrêmement différentes, alors que pour des crimes qui étaient tout de même assez voisins. Donc ça, c'est une injustice considérable. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, le fait qu'il y ait une loi qui fixe une proportion entre les crimes et les peines évite cet arbitraire. Maintenant, vous me direz que c'est rigide. Et c'est vrai que le souci de Montesquieu, c'est de lutter contre l'arbitraire et d'un jugement qui fait un peu la pluie et le beau temps. Donc il préfère effectivement une loi assez rigide, qui fixe une proportion, qui détermine une classe de crimes et de peines, plutôt qu'un que ce qui se passe donc à l'époque. Hein, ça c'est clair. Et c'est d'ailleurs pourquoi il n'a pas peur de considérer que dans la Constitution d'Angleterre... Hein, l'exemple de la fameuse Constitution d'Angleterre, vous savez que les juges, pour lui, doivent être des jurés populaires. Il est assez hostile à des juges professionnels. Et pourquoi lui, qui pourtant se méfie d'une démocratie directe, hein, pourquoi est-il favorable à des jurés populaires, parce que les jurés populaires, d'une certaine manière, ils n'ont pas grand-chose à faire. Il suffit simplement qu'ils voient si le condamné, le crime du condamné, correspond à tel type de peine prescrite par la loi. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Vous voyez, il y a pas... C'est vrai qu'il y a pas... Ils n'envisagent pas un travail du juge qui consiste à ajuster... effectivement, la peine a des circonstances qui sont à chaque fois singulières. C'est comme ça avec ce que nous appelons, nous, l'individualisation de la peine. Hein. C'est vrai que cette question n'est pas vraiment abordée par Montesquieu. C'est vrai que là, c'est certain. Bon, maintenant, ce que vous dites n'empêche pas. C'est vrai qu'il vaut, l'individualisation de la peine, elle suppose tout de même un cadre. Un cadre juridique préalable avec il faut effectivement que le code pénal indique que pour tel type de crime ce sera entre temps et temps d'années de prison. Bon, enfin, c'est comme ça qu'on raisonne aujourd'hui, je pense, et à partir de là le juge en fonction des circonstances, en fonction. Bon, là, il va effectivement trancher dans un sens ou dans un autre. C'est vrai. Mais dites-vous bien que, au fond, Montesquieu est peut-être un des premiers, je pense, à envisager une réflexion sur ces questions de façon assez nouvelle et approfondie, tout de même. Alors après, ça, on va aller sur cette voie. Je ne sais pas si vous avez répondu. Un peu plus fort.
Il semble bien qu'il y ait une sorte de loi naturelle qui s'impose un peu et qui pourrait expliquer les hiérarchies.
Alors, là...
Et en même temps,
oui.
Il y a aussi que suivant les sociétés...
Voilà. Alors voilà, là c'est un point qu'il faut bien expliquer. Effectivement, il dit que exactement la formule, je vais la reprendre comme ça, je ne dirai pas de bêtises. Chaque peine doit être tirée de la nature particulière du crime. Bon, donc on pourrait penser que il y a une sorte de codification éternelle. C'est pas exact, parce que ce qu'il appelle la nature de la chose, ça prend aussi en compte, je dirais, les mœurs, l'évolution des mœurs de la société. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut, il y a une hiérarchie, il y aura toujours une hiérarchie, il y aura toujours une graduation. Il est tout à fait juste qu'on punisse plus sévèrement un assassinat qu'un vol. Et ça sera constant. Mais il peut y avoir un peu de variation en fonction, effectivement, de l'évolution des mœurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tenir compte de la nature de la chose, ce n'est pas tenir compte d'une sorte de donnée immuable que serait le crime. Hein, c'est aussi tenir compte de la manière dont les mœurs aussi envisagent tel type de peine pour ce crime. Hein. C'est pour ça que je vous disais que, bon, la peine de mort n'est pas discutée par lui, c'est vrai, mais il amorce un raisonnement qui fait qu'on peut éventuellement, effectivement, un jour peut-être, remettre en cause cette peine. C'est vrai. C'est vrai, d'autant plus qu'il insiste beaucoup sur l'importance des lois civiles en rapport avec les mœurs, en rapport avec, au fond, les usages, les coutumes, les mœurs d'une société donnée. Donc, pour lui, la législation, elle n'est pas suspendue en l'air. Elle est toujours en rapport avec des mœurs. Et donc, elle tient compte de ces mœurs. Le législateur, il ne légifère pas dans le vide. Voilà. Donc, effectivement, les lois pénales, elles ne sont pas éternelles. Elles ne sont pas éternelles, elles ne sont pas des lois absolues qui valent de la même manière pour toutes les sociétés données, puisque je vous ai dit déjà qu'effectivement, il faut toujours les penser en rapport avec l'esprit d'un peuple, l'esprit général d'une nation, c'est-à-dire au fond, les données particulières d'un peuple, ses mentalités, sa religion, etc. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que là, il y a un petit côté sociologue hein, de Montesquieu. Qui est intéressant, qui est nouveau. Hein, et c'est vrai qu'il a une manière, quand il parle aussi de la religion, il en parle quasiment en sociologue. Et là, ça choque. Au fond, ce qu'il, il ne, bon, évidemment, il fait tout de suite une concession, il y a la vraie religion. Bon, ok, ça je l'ai dit, c'est bon. Maintenant, ce qui lui importe, c'est de réfléchir sur les effets de la religion sur la société. Et il reconnaît qu'elle peut avoir une utilité. Par exemple, il s'oppose à un penseur qui était pourtant un grand croyant, un grand chrétien, un protestant, Pierre Bayle, qui a été d'ailleurs, qui a payé cher son protestantisme en devant s'exiler en Hollande, hein, il ne pouvait pas vivre en France. Eh bien, Bayle disait qu'au fond, une société datée est toujours possible, parce que l'idée qu'on avait à l'époque, c'était que les athées sont il est impossible que les athées puissent faire une société parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Et quand on ne croit pas en Dieu, on ne peut pas avoir de morale. Je résume, très grossièrement. Eh bien, que dit Pierre Bègle ? Ben non, finalement, une société d'athées serait certainement plus viable qu'une société de catholiques. Qui sont persuadés qu'au fond, il y a une loi au-dessus, une loi religieuse, une loi sacrée au-dessus de la loi civile, et qui seraient prêts finalement à désobéir à la loi, prétendument pour leur Dieu. Donc effectivement, une société d'athées est tout à fait possible, contrairement à ce que bien des penseurs de l'époque disent de la question. Alors lui, Montesquieu, ben, répond à Bègle, non, la société, la religion a une utilité sociale, elle a du bon. Donc il n'est pas hostile à la religion, mais il en parle d'une manière qui est au fond, qui n'est pas religieuse. Il s'intéresse uniquement à l'utilité sociale de la religion. Oui. Et ça, ce discours-là, c'est tout de même quelque chose qui ne peut que choquer les théologiens.
Donc il prépare bien le terrain pour l'avènement d'une société
laïque. Alors il va, oui, on peut dire qu'il va dans le sens d'une laïcisation du droit. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, on peut le dire. Mais il ne faut pas trop lui faire dire, parce que il ne pense pas l'État comme... enfin, l'État a un rôle à jouer dans la régulation des religions.
Enfin, ceci dit, pour vous dire, pour dépénaliser les crimes contre la religion, c'est quand même fort de café.
Ah oui, ah, ça, c'est clair. Et là, il y a deux... On peut dire, on parle tout le temps de Voltaire, effectivement, avec son traité sur la tolérance, qui s'est déployé contre l'intolérance religieuse, contre le fanatisme. Les textes de Voltaire sont célèbres. Il s'est investi considérablement sur cette question avec le procès de Jean Calas. Hein, bon, et puis pas seulement, d'autres procès encore, hein, comme le Chevalier de la Barre. Bon, mais déjà Montesquieu avant lui. Montesquieu est un petit peu plus âgé. Et d'ailleurs, remarquez que quand Voltaire parle de l'affaire Calas, c'est en 1763, je crois, 64, c'est bien plus tard déjà. Il y a déjà eu une évolution. Montesquieu est beaucoup plus prudent. Même s'il fait preuve d'audace tout de même, hein, parce que dire ce qu'il dit, c'est quand même bien senti. Hein. C'est quand même assez dangereux, en un sens. Mais il est un pionnier de ce point de vue-là. Alors il ne parle pas, c'est vrai qu'il ne parle pas de cas précis. Il évite hein, de trop en dire. Et on sait que quand on étudie ses cahiers, ses brouillons, enfin ses travaux préparatoires, qu'il était prêt à dire beaucoup plus de choses, mais qu'il s'est retenu. Donc il avance quand même sur des œufs, hein, marche sur des œufs. Hein. Faut pas oublier qu'il a vécu sous la Régence et sous Louis XV. Bon, Louis XV paraît un roi plus je dirais plus ouvert que Louis XIV. Mais tout de même, même sous Louis XV, il y a des ordonnances qui sanctionnent sévèrement les crimes d'hérésie. Hein.
L'ordonnance qu'il nous a donnée, là.
Voilà.
C'est ça, vous,
voilà, vous avez les ordonnances hein, qui témoignent hein, de la manière dont les gens sont traités. On n'imagine pas, vous ne vous rendez pas compte, je vous parle comme ça, je ne me rendais moi-même pas compte de l'importance de l'Église dans la vie quotidienne des gens à cette époque. Incroyable. Elle exerce un contrôle et une surveillance permanente. C'est vrai que c'est considérable. Elle a un poids considérable. Et donc, imaginez l'audace qui est celle de Montesquieu. Alors lui-même est un homme qui... La chance, il est tout de même privilégié. Il s'est marié avec une femme protestante. Pas rien. En fait, beaucoup pensent qu'il était pas vraiment croyant. Enfin, on ne sait pas, parce qu'il est très méfiant. Bon, mais à la fin de sa vie, il y a eu des problèmes à cause de ce qu'il a dit là. Il n'était pas aimé, pas apprécié.
Est-ce qu'il y avait une justice particulière pour les enfants à cette époque-là ?
Non, je crois pas. Non. Les enfants n'existent pas. Non, mais c'est un peu provocateur ce que je vous dis. Mais les enfants, l'enfant existe à partir du 19e siècle, j'exagère un petit peu. Mais c'est vrai que les enfants, bon, regardez lui-même, Montesquieu enfant, ses parents ne s'en occupent pas, bon, c'est des parents privilégiés, ils le mettent en nourrice avec les petits-enfants du village voisin. D'ailleurs, il commence par parler le gascon avant d'apprendre le français, il est mélangé. Et les enfants n'ont pas de statut particulier, sauf à partir d'un certain âge, quand ils sont privilégiés, qu'on va les mettre dans certaines écoles, certains instituts.
Donc ils subissaient le même cas que les adultes.
Au XVIIIe siècle, il y a déjà des mutations. Il y a déjà des. Mais dans la paysannerie, en tout cas, franchement, les enfants s'en occupent à peine. Ça s'élève tout seul avec les autres. La mortalité infantile était considérable. Considérable. Bien sûr. Considérable. Donc, et puis les femmes qui mourent en couche aussi, c'était. Donc, voilà, si vous voulez, la situation. Alors, ce qui fait que Montesquieu est très sensible à la question de la justice, c'est qu'il était lui-même magistrat, des juges au Parlement de Bordeaux. Et c'est vrai qu'il a eu à réfléchir. En même temps, ça ne l'intéressait pas. Il était un peu comme Montaigne. C'est-à-dire qu'il voulait, quand il a pu se tirer de ses charges, il s'en est débarrassé. Il a vendu sa charge de président à mortier. Il a fait aussi un long voyage aussi, tout au long d'Europe. Il aurait voulu être ambassadeur. Il n'a pas été. Puis surtout, il avait une vraie passion pour l'étude. Et dans tous les domaines. Peut-être d'autres questions. Oui, encore une question.
Globalement, ça a pensé conception de la loi, avec le principe de proportionnalité, etc. Est-ce que ça inspire le droit français actuel ?
Alors, ça va bouleverser les choses. Si vous voulez, son héritier, c'est Césare Beccaria, qui vraiment reprend. Il est dans une problématique du contrat social, Beccaria, mais il reprend beaucoup de la pensée de Montesquieu. Et Montesquieu, Beccaria, Voltaire, etc., vont considérablement transformer la question pénale. On ne s'y intéressait pas. À partir d'eux, on s'y intéresse. Et l'œuvre de Beccaria va avoir un retentissement considérable en Europe. Ça va être un livre qui va être traduit dans je ne sais combien de langues, qui va être lu par Voltaire, et Voltaire va beaucoup s'en inspirer, il va beaucoup réfléchir à partir de Beccaria, il va justement s'intéresser d'une autre manière à la question, effectivement, de la justice pénale. Avant, il envisageait uniquement la question de l'intolérance religieuse, là, il va s'intéresser aussi à la question juridique, pénale, de manière générale, à partir de là. Donc oui, ça va avoir un effet considérable. Et les révolutionnaires français sont tout de même marqués par la lecture des philosophes. Regardez les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je ne les ai pas en tête comme ça, mais il y en a un ou deux qui sont vraiment directement inspirés de ce que dit Montesquieu, notamment sur la question de la présomption d'innocence, sur la sur la peine, sur la justice pénale. Donc si, c'est très important. Absolument. Hein, c'est tout à fait nouveau. Et le livre de Michel Foucault, « Surveiller et punir », vous montre qu'à l'époque, encore, c'était incroyable. On était dans un monde où on pratiquait les supplices comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Enfin, c'était... Bon, ça commençait effectivement peut-être à s'adoucir un peu, mais on était encore dans ce monde-là tout de même. Et où, au fond, la question de la justice pénale était rapportée à celle de la majesté du roi. Et à partir de Montesquieu, Beccaria, changement de finalité, la question de la justice pénale, elle, c'est avant tout la question de la défense de la société. Pour défendre la société. Donc là, ça change. Vous voyez ? Ça change. Et effectivement, on va avoir affaire à un adoucissement des peines. Hein. On va en quelque sorte délivrer hein, la pénalité de sa fonction expiatoire, hein, de ce comme elle était pensée auparavant. Ça, c'est quelque chose de même d'important. Et voyez que à chaque fois que Montesquieu réfléchit sur la pénalité, il réfléchit à la manière un peu d'un économiste. Vous voyez c'est en termes de calcul des effets, en calcul. Enfin, il faut que, en quelque sorte, l'individu qui pourrait être tenté par le délit ou le crime fasse un calcul d'intérêt. Et en faisant ce calcul d'intérêt, il fera peut-être un peu céder ses passions. Ses passions qui effectivement l'incitent à tuer, bon, ou à voler. Donc s'il fait un calcul d'intérêt, vous voyez, on compte sur la rationalité des hommes.
C'est
vous voyez
sur les contre-productifs, les peines capitales.
Ah, ça, c'est ce que va dire Beccaria. Effectivement, la peine de mort est une peine cruelle, despotique, qui n'a aucun effet dissuasif, mais au contraire, qui encourage, qui favorise, comment dirais-je, la criminalité. Et Badinter est un héritier de Beccaria, va dans ce sens-là. Bien sûr. Ah ben c'est toujours le même argument.
C'est déclin à partir de 1980, mais en fait, l'idée comme ça, de supprimer la
prison, oui, tout va foutre le camp si on supprime la peine de mort. En fait, si on regarde les études, enfin les statistiques et puis l'évolution des choses, il y a moins de crimes qu'autrefois. Enfin, en tout cas, la peine de mort n'est pas plus dissuasive qu'elle n'est... favorable, elle n'a pas d'effet vraiment sur la criminalité, enfin, d'après les études hein, qu'on a. Mais disons qu'on a même un peu tendance à s'imaginer à chaque fois que notre société, elle n'a jamais été aussi violente, etc. C'est faux, c'est largement faux. On parle beaucoup plus de la violence, ça c'est que on est d'accord. Mais bon, la violence... On ne peut pas imaginer à quel point elle était forte dans les sociétés antérieures. Quoi, je ne sais pas, enfin, au temps de Montesquieu, vous vous baladiez sur un chemin, vous risquiez d'être détroussé, d'être dévalisé, d'être bon, et assassiné. Bon. Hein ? C'est pas pour rien qu'il parle des voleurs de grand chemin. Je termine juste par un petit exemple, et puis je vous laisserai après. Par exemple, pour dire qu'il faut... qu'est-ce qui vaut mieux, la sévérité ou ah oui, mais alors, si je ne retrouve pas mon texte, ce n'est pas la peine. Est-ce qu'il vaut mieux... Bon, de mémoire. Il y a un exemple, mais un exemple de l'époque. On a, avant les déserteurs, on les sanctionnait par une peine d'infamie. On marquait leur corps de telle sorte qu'on puisse... voir qu'ils avaient été déserteurs. Et puis, à un moment donné, on a pensé que ce n'était pas assez sévère. Alors, on les a pendus. On a recouru à la peine de mort. Et en fait, on s'est aperçu que ça n'avait eu aucun effet dissuasif, au contraire. Au contraire, parce que les déserteurs, ce sont des soldats qui n'ont pas peur, au fond, de se confronter à la mort. Et finalement, pour eux, la peine de mort est moins impressionnante, moins grave que la peine d'infamie. Vous voyez, être marqué à vie avec un signe qui montre que vous avez été déserteur, c'est épouvantable, c'est affreux pour un soldat qui a été déserteur. Donc, vous voyez, il montre par des exemples. Hein, qu'est-ce qui vaut mieux? Évidemment, des exemples appropriés à l'époque, hein, ce ne sont pas les nôtres. Mais vous voyez que certaines peines qu'on croit plus douces, finalement, sont plus efficaces. Elles sont plus douces, physiquement, c'est sûr. Mais elles sont plus efficaces parce qu'elles sont des peines symboliques. Elles ont plus de portée. Donc voilà, hein, matière à réflexion. Et on va arrêter là. Merci. Je ne sais pas comment on fait là.